Uriel Frisch est né le 10 décembre 1940 à Agen. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure. Il est docteur d'État, licencié de mathématiques appliquées. Depuis 1963, il est directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de la turbulence, de la dynamique des fluides, de la physique statistique et des méthodes numériques, mais aussi de l'astrophysique. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences. Il est l'auteur de plus de 200 articles et il a publié un livre qui est intitulé « Turbulence, The Legacy of Kolmogorov », qui est publié chez Cambridge University Press en 1995 et qui a été traduit en russe. Voilà, Uriel Frisch, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat d'une vingtaine de minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Alors évidemment, cette conférence se situe dans le cadre du thème mathématique, donc je vais aussi vous parler certaines questions relatives aux enjeux mathématiques de ma discipline. Mais en fait, cette discipline, c'est un carrefour. Il y a de la physique, il y a de la géophysique, il y a de l'astrophysique, il y a de la mécanique des fluides, bien entendu. On va trouver tout ça. Pendant cette conférence, j'aurai l'occasion de vous parler de diverses questions, une petite introduction. Je vous parlerai de transition, de chaos, d'effet papillon, de mouvement brownien, de chou-fleur, vous voyez. Et puis, enfin, je vous parlerai du million de dollars que M. Clay nous a promis. Donc, commençons. Alors, tout d'abord, la turbulence, ça fait partie de l'expérience quotidienne. Il n'est pas nécessaire d'avoir un microscope ou un télescope pour observer les volutes de la fumée d'une cigarette ou les gracieuses arabesques de la crème que vous versez dans le café ou les enchevêtrements de tourbillons que l'on peut observer, par exemple, dans un torrent de montagne, pour ceux qui ne voient pas bien. Alors ça, c'est Léonard de Vinci. C'est pas à l'envers. Hein. Il écrivait comme ça. Effectivement, si vous essayez de lire, c'est plus facile de retourner. Alors, c'est très intéressant parce que Léonard de Vinci, il y a 5 siècles, a été le premier à étudier au moins qualitativement la turbulence. Et il avait perçu des choses que l'œil ordinaire ne voit pas. Ces structures hélicoïdales ne sont pas du tout faciles à percevoir. C'est seulement au XXe siècle, avec des techniques beaucoup plus raffinées, qu'on a pu voir qu'elles sont réellement présentes. Léonard de Vinci a aussi été le premier à avoir utilisé le mot turbulence, en italien turbolenza, dans son sens moderne, c'est-à-dire de mouvements désordonnés, complexes, de l'air ou de l'eau. Ça fait donc 5 siècles. Avant cela, le mot turbulence désignait tout à fait autre chose. En latin, ce sont les mouvements désordonnés de la foule. Turba, c'est la foule. Et ultérieurement, le mot turbulence a pris toutes sortes de sens. Par exemple, j'ai vu récemment au musée Paul Getty, à Los Angeles, un manuscrit du XVe siècle en vieux français, où il y avait une traduction d'un psaume de David, où il y avait la phrase « Délivrez-nous des turbulences ». Turbulence, c'était les mots, c'était les troubles. En fait, c'est le même mot. Trouble et turbulence, c'est le même mot. Alors, ce que vous voyez là, à travers l'œil de Léonard de Vinci, c'est à la fois ordonné et désordonné. Notez la différence très sensible entre un écoulement turbulent et un désordre total tel que je l'obtiendrais, par exemple, en projetant une poignée de sable, ça c'est du sable de la Loire, bien sec, sinon ça ne donne pas la même chose. Si je projette ça sur une feuille de papier, oh, c'est pas très drôle. Ça c'est le désordre sans aucun ordre dedans. Ce qui fait le charme et aussi la difficulté de la turbulence, c'est ce mélange intime d'ordre et de désordre. Alors d'abord, je veux vous dire que c'est très facile d'obtenir de la turbulence. Alors chaque fois qu'un fluide s'écoule autour d'un obstacle, par exemple, dans le sillage d'un bateau, d'un caillou. Dès que la vitesse est suffisante, eh bien, vous obtenez de la turbulence. Et ça, c'est de l'expérience quotidienne, vous le savez, bien sûr. En conséquence, on trouve de la turbulence partout. Par exemple, on en trouve dans la circulation du sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est pas forcément recommandé, mais ça se produit. On en trouve évidemment dans l'écoulement autour d'une automobile ou d'un avion. Et puis, qui n'a pas déjà entendu attacher vos ceintures en raison des turbulences, qui peuvent être très fortes quelquefois. Vous en trouvez dans les mouvements de l'atmosphère, en météorologie, j'y reviendrai. Les mouvements du gaz qui constituent des étoiles comme le Soleil. Et puis, il y a des mouvements turbulents à l'échelle de l'univers tout entier. Ça, c'est un exemple. Alors, malheureusement, je ne projette pas très bien. Les couleurs sont superbes, mais je ne sais pas. C'est une simulation à l'ordinateur de très grande taille, faite par le consortium Virgo, où l'on voit des filaments qui sont en fait des amas de galaxies. Chaque point est une galaxie là-dedans, et ça s'organise dans cet enchevêtrement qui lui aussi est à la fois très désordonné et très ordonné, puisqu'il y a des structures là-dedans. Donc, la turbulence partout. Alors, c'est très important d'avoir de la turbulence, parce que sans cette turbulence, par exemple, la pollution urbaine persisterait pendant des millénaires. Et la chaleur qui est produite par les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles ne pourrait pas s'en échapper, ou alors elle mettrait un temps bien plus long que la durée de l'univers. Et puis, les phénomènes météorologiques deviendraient prévisibles à très très long terme, ce qui ne serait peut-être pas drôle. Alors, je ne vais pas vous écrire des équations ici. Je veux simplement vous dire qu'on sait écrire les équations qui gouvernent les mouvements turbulents depuis les travaux de Navier en 1823. Donc, ça fait presque deux siècles. Alors, ces équations ont été appelées ultérieurement équations de Navier-Stokes en raison des perfectionnements qu'y a apporté George Stokes. Mais en fait, c'est très simple, les équations de mouvement d'un fluide. Il s'agit essentiellement des fameuses équations de Newton. Ce sont des équations qui sont simplement appliquées à chaque parcelle de fluide. Là, bon, vous imaginez que chaque parcelle de fluide, on lui applique les équations de Newton, c'est-à-dire qu'on écrit qu'il y a une relation que vous connaissez entre la force appliquée et l'accélération. Force égale masse multipliée par accélération, tout simplement. Mais au lieu de l'appliquer à un seul corps, vous l'appliquez à une infinité de parcelles. C'est pour ça que les équations que l'on obtient porte un nom particulier qu'on appelle équation aux dérivées partielles, mais je ne vais pas vous les écrire. En fait, c'est très bien représenté par ce que vous voyez là. Et même quand on veut les simuler numériquement, on s'empresse de faire disparaître l'objet mathématique équation aux dérivées partielles et on le remplace en gros par celui que vous voyez là. Alors, en réalité, ces équations ont peut-être un siècle de plus, parce que Euler les avait déjà écrites il y a trois siècles. Il manquait juste un terme. Il manquait un terme qui a été découvert par Navier, qui est le frottement visqueux entre les différentes couches de fluide. Ça manquait chez Euler. Parce que si vous avez deux couches de fluide qui n'ont pas la même vitesse, qui ont donc un mouvement relatif, ben ça frotte. Ça ne va pas vous surprendre. Alors, en fait, ici, le frottement, pour bien vous faire comprendre que ça frotte, on a dessiné une espèce de rugosité. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et Navier a fait une très grande découverte. Il a postulé qu'entre les deux couches de fluide, il y avait en fait des échanges de molécules. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de molécules qui vont de l'une à l'autre, qui se cognent et qui, de ce fait, et comme on dit, échangent de la quantité de mouvement, c'est-à-dire que ça frotte. Mais à l'époque, l'hypothèse moléculaire n'était pas du tout démontrée. C'était une vague spéculation philosophique. Et le travail de Navier sur la mécanique des fluides a été, d'une certaine façon, une introduction un peu quantitative de l'hypothèse moléculaire. Alors, ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est les molécules chez Navier, étaient-ce nos molécules modernes ou étaient-ce des petites bulles de fluide? Ça, on ne sait pas trop. On ne peut plus l'interviewer. Alors, ces fameuses équations, on sait les résoudre à l'ordinateur, mais elles posent encore toutes sortes de problèmes mathématiques ouverts. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors, la turbulence, c'est aussi une discipline expérimentale. Ça a commencé vers la fin du 19e siècle, quand M. Osborne Reynolds, un Anglais, s'est mis à étudier les écoulements dans des tuyaux, dans des conditions bien contrôlées, et il a observé quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire si l'eau s'écoule lentement, les filets d'eau sont tous bien parallèles, on dit que l'écoulement est laminaire, et puis au-delà d'une certaine vitesse ou d'un certain débit, les filets sont désorganisés, on a un écoulement turbulent. Il a observé que la transition d'un régime à l'autre régime pouvait être caractérisée par un nombre qu'on appelle depuis le nombre de Reynolds, qui n'est autre que le produit du diamètre du tuyau, la vitesse de l'écoulement, divisé par un coefficient qu'on appelle le coefficient de viscosité. Pour vous donner une idée, pour l'air, c'est à peu près un dixième de centimètre carré par seconde, et pour l'eau, un centième. Et vous voyez donc avec des tuyaux assez modestes, de quelques centimètres de diamètre et des écoulements qui ne sont pas particulièrement rapides, vous allez déjà avoir des nombres de Reynolds de plusieurs milliers. Et effectivement, Reynolds a montré que la transition se produisait pour des nombres de Reynolds de quelques milliers. Alors, depuis, bien sûr, il y a eu énormément d'autres expériences de transition, que ce soit dans des écoulements fermé comme un tuyau ou dans des écoulements ouverts, c'est plus beau. Alors ce que vous voyez là, c'est l'écoulement derrière un cylindre. Et il y a une structure, on appelle ça une allée tourbillonnaire ou une allée de von Karman. Parce que ça a été étudié de façon très détaillée par le mécanicien des fluides von Karman. Si l'écoulement est très lent, vous n'avez pas toute cette allée tourbillonnaire, vous avez simplement une zone tourbillonnaire derrière le cylindre, et puis à un certain nombre de Reynolds, cette fois-ci basé sur le diamètre nouveau et la vitesse de l'écoulement, boum, ça se déclenche, et vous voyez partir cette magnifique allée de Karman. Bien sûr, ces tourbillons sont en mouvement, ça c'est un instantané. Alors, fallait-il l'appeler l'allée de von Karman? On peut discuter, parce que Léonard l'avait déjà vu. Vous voyez, bon, il s'est un tout petit peu trompé, mais pas beaucoup, hein. En fait, ça a été vu avant von Karman par le mécanicien des fluides français, Bénard, aussi. Alors, une des caractéristiques très importantes des écoulements turbulents et qui apparaît dès la transition à la turbulence, c'est leur caractère non prédicible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, non prédicible? Alors, supposez qu'on connaisse l'état initial d'un fluide. Je suppose qu'on a tout mesuré, on connaît exactement l'état initial. Les équations qui régissent les mouvements des fluides sont des équations bien déterminées. Dans notre jargon, on dit déterministes. Et il n'y a pas de hasard dans l'évolution ultérieure. Tout est bien déterminé, donc en principe, on va pouvoir connaître l'évolution ultérieure de cet écoulement en résolvant ces équations. En fait, il y a un obstacle, et c'est cet obstacle qu'on appelle le chaos. C'est que si on fait une erreur, même très très petite, et c'est inévitable de faire des erreurs de mesure, cette erreur va s'amplifier, et elle va s'amplifier de façon très rapide, on dit de façon exponentielle, c'est comme des intérêts composés. Et ce phénomène est connu depuis longtemps. Une des premières personnes à l'avoir étudié, c'est Poincaré. Plus récemment, enfin au cours des 40 dernières années, ça a été étudié de façon très systématique, d'une part par des gens de l'école du mathématicien russe Kolmogorov, qui est décédé, mais certains de ses élèves, comme Arnold ou Sinai, sont encore très actifs dans ce domaine. Il y a eu Edward Lawrence aux États-Unis, un météorologue, qui a introduit l'effet papillon dont je vais vous parler dans un instant, et il y en a eu bien d'autres. Alors, pour faire comprendre ce phénomène de façon élémentaire, justement, Lawrence, dans une interview avec des journalistes, a imaginé que dans la prévision météorologique, on considérait deux états, un état sans papillon et puis un état où il y a un papillon qui bat de l'aile, avec une toute petite perturbation due à ce battement d'aile. Et Ensuite, on essaye d'imaginer l'état de l'atmosphère ultérieurement. Alors, ceci n'est pas la trajectoire du papillon, c'est un dessin très symbolique, c'est l'état de l'ensemble de l'atmosphère. Un point là-dessus, c'est toute l'atmosphère et les divers états, l'évolution au cours du temps. Alors, sans papillon, c'est cette trajectoire-là qui est reproduite ici. Et puis, avec papillon, ça commence de la même façon, et puis ça finit par s'écarter assez vite, et ça n'y ressemble plus du tout. Alors, bien sûr, vous pouvez remplacer le papillon par un éternuement ou ce que vous voulez. Et quand on regarde ça quantitativement, on trouve que l'atmosphère reste prédicible peut-être pendant de l'ordre d'une dizaine de jours. D'ailleurs, il est courant maintenant de voir des prévisions à 5, 6, 7 jours. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait que c'était une limite qu'on ne pouvait vraiment pas dépasser. Et pourtant, vous savez que si le 31 décembre, votre cousin, dont je supposerais qu'il habite dans l'hémisphère nord, vous dit « Je crois bien que dans 6 mois, il fera plus chaud », il ne se trompe pas. En moyenne, du moins, il ne se trompe pas. Eh bien, il y a des versions beaucoup plus sophistiquées de ça, qui ont été découvertes ces dernières années, qui permettent de prédire certaines choses sur des durées qui vont de plusieurs dizaines de jours à plusieurs mois. Et quand on se rapproche des tropiques, d'ailleurs, ça augmente la possibilité de prédire. Ça porte le nom barbare de prévision intra-saisonnière. Et c'est associé à des noms comme ceux de Michael Gill aux États-Unis, Bernard Legras et Robert Votard en France. Et ça nous permet d'être prudemment optimistes sur des prévisions à plus long terme, mais pas de tous les détails. Alors maintenant, j'en arrive au très grand nombre de Reynolds. Parce que les très grands nombres de Reynolds, c'est quelque chose que l'on obtient très facilement. Dans les écoulements que vous avez dans la nature, dans l'atmosphère, dans les océans, ou là-haut, dans le ciel, dans Jupiter, dans le milieu intersidéral, les nombres de Reynolds sont énormes. Ça peut être des centaines de millions. Donc il est intéressant et pertinent de se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les nombres de Reynolds sont très élevés ? Alors voici déjà un exemple d'un jet turbulent avec un nombre de Reynolds assez élevé. Et ce que vous observez là, c'est qu'il y a des structures, des tourbillons de toute taille. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des plus petits, et puis ça finit par se perdre parce que la photo n'a pas une résolution infinie. Alors des très grands nombres de Reynolds, ça, c'est facile à obtenir dans des conditions à peu près bien contrôlées, dans une soufflerie. Une soufflerie, c'est le genre d'endroit où on fait des tests, par exemple, d'une nouvelle voiture ou d'un nouvel avion, soit en grandeur nature, quelquefois pour des voitures, soit plutôt en maquette pour les avions. C'est des installations énormes. Ça peut avoir plusieurs centaines de mètres de long. Il peut y avoir un tube à l'intérieur qui fait 30 ou 40 mètres de diamètre. Vous voyez, c'est des gros machins. Et là-dedans, on peut avoir des nombres de Reynolds très importants. Mais depuis quelques années, on sait obtenir le même nombre de Reynolds sur table, dans des souffleries à hélium. Parce que l'hélium à très basse température, l'hélium gazeux, a une viscosité tellement basse qu'on peut reproduire les conditions d'une soufflerie. Et c'est évidemment beaucoup moins onéreux. Et puis le physicien qui s'intéresse aux aspects fondamentaux de la turbulence, au lieu de se faufiler entre deux industriels en ayant droit tous les 6 mois à 20 minutes d'expérience, il peut faire tourner ça pendant 10 000 heures s'il veut. Alors en France, on a été un peu les pionniers là-dedans. Il y a des gens comme Bernard Castin, comme Patrick Tabling qui ont développé des sondes et des souffleries comme ça. Et il y a maintenant beaucoup de résultats qui sont obtenus grâce à des souffleries sur table à des nombres de Reynolds très importants. Alors, quand on regarde un écoulement à très grand nombre de Reynolds, il est souvent commode, plutôt que de chercher à tout visualiser, de se focaliser sur un point, d'y mettre une sonde, puis de mesurer, en fonction du temps. Alors, voilà ce que ça donne, typiquement. Si vous regardez la variation de la vitesse au cours du temps en un point, vous obtenez une courbe qui ressemble à s'y méprendre à la courbe du mouvement brownien. Alors, qu'est-ce que c'est que la courbe du mouvement brownien ? Eh bien, imaginez que l'on ait représenté, en fonction du temps, la position d'un ivrogne qui déambule sur la rue principale d'un village où il y a des bistrots partout, et puis il est tellement saoul que tantôt il va vers l'avant, tantôt il va vers l'arrière, et il ne se rappelle évidemment plus du tout ce qu'il a fait au pas précédent. Et si les pas sont tout petits, le relevé de la position de l'ivrogne en fonction du temps, c'est la courbe du mouvement brownien. Ça s'appelle la marche au hasard. Vu de loin, c'est la courbe du mouvement brownien. On vous en reparlera ici d'ailleurs. Dans la courbe du mouvement brownien, la distance typique parcourue par l'ivrogne au bout d'un certain temps n'est pas proportionnelle au temps écoulé. Bien sûr, il faudrait qu'il aille tout le temps dans la même direction. Ça varie comme la racine carrée du temps écoulé. Ça, c'est la courbe de la racine carrée. Et c'est la même loi que celle qui gouverne les erreurs dans les sondages d'opinion. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Alors ici, on a la racine carrée. Eh bien, si je vous représentais le diagramme qui donne, en fonction du temps, la vitesse en un point d'un écoulement turbulent, à l'œil, ça ne se distinguerait même pas, mais en fait, ça, au lieu de varier comme la racine carrée, ça varie comme la racine cubique. Alors, cette loi de variation en racine cubique a été prédite il y a environ 60 ans par le grand mathématicien russe Andrei Kolmogorov, à qui j'ai dédié mon livre, d'ailleurs. Et cette loi a été très largement validée ensuite par toutes sortes d'expériences et aussi des simulations numériques à l'ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, elle était déjà en germe dans des études qui ont été faites dans les années 20 et 30 par le météorologue britannique Richardson, qui, lui, avait une vision plus géométrique de ce qui se passait, une vision tout à fait géniale, que je vais vous illustrer. Alors, Monsieur Richardson connaissait bien la poésie anglaise. Ça, c'est pas Monsieur Richardson, ça, c'est Jonathan Swift. Et Monsieur Swift a écrit le poème suivant, que je vais vous lire en anglais. So naturalists observe, a flea hath smaller fleas that on him prey, and these have smaller yet to bite them, and so proceed at infinitum. Alors, plutôt que d'essayer de vous traduire ça, je vais vous l'illustrer. Alors, vous imaginez, et ça, en fait, c'est la version un peu Richardson de la chose. Vous imaginez que vous avez une grosse puce qui est en train de sucer le sang de votre chien. Vous voyez le sang, d'ailleurs, hein, il est rouge. Hein. Et puis, il y a des puces plus petites qui sont en train de sucer le sang de la grosse puce. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne des puces tellement petites que le sang s'y décompose par des processus moléculaires. Alors, en fait, où est la turbulence ? C'est une analogie. C'est que remplacer le sang par l'énergie, simplement l'énergie cinétique de l'eau, les mouvements de l'eau. Et en supposant que le sang se conserve, c'est la même chose, on conserve l'énergie cinétique. Il y a de l'énergie cinétique qui s'écoule depuis les plus gros tourbillons jusqu'aux plus petits et qui finit par être dissipée en chaleur. Et c'est ça que Richardson a proposé, cette vision hiérarchique, kabbalistique, qui se révèle être extrêmement fructueuse et que dont Kolmogorov avait connaissance, d'ailleurs. Alors, évidemment, ce que vous voyez là, si vous avez un petit peu l'habitude, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, des objets à construction hiérarchique comme ça, ça a été appelé par Benoît Mandelbrot, qui va parler ici dans 3 jours, je crois, ça a été appelé des fractales. Et des fractales, ce sont des objets que l'on peut caractériser par une dimension qui n'est pas un nombre entier. Alors des dimensions entières comme 0, 1, 2, 3, on peut leur associer des points, des lignes, des surfaces et des volumes. Et si vous l'imaginez, un objet de dimension non entière quelque part entre 2 et 3, ben pensez un chou-fleur, enfin vous avez le choix entre le chou-fleur et le brocoli, on voit mieux l'arborescence dans le cas du brocoli, et vous voyez, c'est tout à fait apparenté à cette structure hiérarchique, et donc la question se pose évidemment, quelle est la dimension de la turbulence? Ou plus précisément, quelle est la dimension, alors en termes techniques, ça s'appelle dimension de Hausdorff, de la dissipation de cette fameuse énergie, à l'endroit où se décompose le sang. Alors si c'était 3, eh bien la théorie qu'avait proposée Kolmogorov en 1941 serait exacte. Et c'est presque 3. Et cette théorie marche vraiment pas mal pour les applications pratiques, les ingénieurs l'utilisent beaucoup. Mais ce n'est pas exactement 3. Et ça fait très longtemps, plus d'un demi-siècle maintenant, que les gens essayent de comprendre en quoi on peut arriver à trouver ce qui ne va pas tout à fait dans la théorie de Kolmogorov. Parce que ce n'est pas une théorie fractale, celle de Kolmogorov. La dissipation se fait dans tout le volume. C'est comme si les puces étaient très très serrées, vous voyez, sans laisser de vide entre elles. Vous mettez des puces partout, 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 et vous remplissez tout. La vraie turbulence, elle se raréfie un tout petit peu, ces puces. Et ça, c'est un point qui est extrêmement difficile à appréhender et pour lequel il y a eu beaucoup de développements théoriques, mathématiques en particulier. Alors, pendant des dizaines d'années, tout ce qu'on savait faire, c'est des modèles qui sont à peine plus raffinés que les puces que je vous ai dessinées, pour essayer de comprendre comment la turbulence pouvait se ramifier. Mais on mettait le caractère fractal à la main dedans. On ne le déduisait pas des équations de base. Et puis, il y a eu un changement. Récemment, ça s'est passé il y a moins de 5 ans. Il y a eu une vraie percée sur un problème qui n'est pas exactement celui de la turbulence, mais qui y ressemble beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer ces images, là. Voilà. Alors, le problème pour lequel on a vraiment avancé, c'est le problème que, dans notre jargon, nous appelons celui du scalaire passif. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on se donne l'écoulement turbulent et puis on met un polluant dedans. Et on s'intéresse à la façon dont il va se répartir. Vous pouvez imaginer que vous avez mis un peu de polluant, j'ose pas penser à l'Erika, c'est pas aussi beau que ça, le pétrole. Et puis vous regardez les surfaces de niveau de ce polluant. Vous obtenez quelque chose qui a cet aspect-là. Vous voyez, c'est très poétique. Il est évident aussi qu'il y a beaucoup de structures fractales là-dedans. Et le progrès qui a été fait par adaptation à la mécanique des fluides techniques qui ont été empruntés à la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs, c'est essentiellement les outils mathématiques qui sont utilisés en physique des très hautes énergies. Alors, je ne vais pas vous résumer comment ça a été fait. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, pour certains problèmes de type polluant, en particulier une classe de problèmes qui a été introduite par le physicien américain Robert Crichton, qui fut d'ailleurs le dernier assistant d'Einstein, eh bien, on sait de façon systématique, à partir des équations de base, déterminer par la théorie les propriétés d'échelle, en particulier les propriétés fractales, de ces scalaires passifs. Alors, ça sont des simulations à l'ordinateur de ce qui se passe avec un polluant dans divers écoulements turbulents, convectifs, etc. On y voit en particulier des falaises, des endroits où la concentration change de façon très brutale. Et la dimension fractale de ces falaises, qui peut être estimée, permet de résoudre des problèmes comme ceux qui restent encore ouverts pour la vraie turbulence, mais on essaye de transposer de ces problèmes un peu plus simples vers les propriétés de la turbulence tout entière. Il n'est pas exclu que dans les 10 années à venir, peut-être même avant, mais ça m'étonnerait, on ait pu faire cette percée qui permettrait enfin de dire nous tenons une théorie de la turbulence. Alors maintenant j'en arrive à un problème assez délicat. Je vais me rapprocher, disons, du thème mathématique. Donc Kolmogorov, en 1941, propose une théorie où les variations de vitesse entre deux points très proches sont comme la racine cubique de la distance entre ces points. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est assez largement validé expérimentalement. Mais si on fait des mesures très précises et très fréquentes, on constate, de temps en temps, la variation est beaucoup plus brutale qu'une racine cubique. Et ce phénomène, en fait, avait déjà été vu il y a très longtemps par Adhémar Barré de Saint-Venant, qui en 1843 écrivait ceci: les écoulements dans les canaux de grande section, enfin ceux dont nous dirions aujourd'hui qu'ils possèdent un grand nombre de Reynolds, présentent des ruptures, des tourbillonnements et autres mouvements compliqués. Alors, le point intéressant, ce sont les ruptures. Effectivement, si vous marchez le long d'un torrent de montagne, vous allez voir certains endroits où la vitesse semble varier très, très brutalement. Et ça se voit. C'est pas forcément facile à attraper avec une sonde dans une soufflerie, mais dans un torrent de montagne, ça se voit. Ou dans un canal, si le débit est suffisant. Et alors, ça pose un problème assez grave, parce que si la variation de vitesse entre des points voisins est trop brutale, eh bien, les équations de la mécanique des fluides pourraient cesser d'être valables. Parce que pour obtenir les équations de la mécanique des fluides, on suppose que le fluide est un milieu continu. On ignore sa structure moléculaire. Sa structure moléculaire sert seulement à fournir un coefficient de viscosité. Mais si on avait des variations de vitesse tellement brutales qu'elles se produisent sur des distances comparables aux distances que parcourent les molécules entre deux collisions, qui sont très petites, eh bien alors il faudrait repenser la formulation des équations et on ne pourrait plus utiliser l'approche qui a été développée depuis deux siècles. Et il faudrait complètement repenser au niveau microscopique, parce qu'on n'aurait pas de séparation entre le monde microscopique, celui des molécules, et le monde macroscopique, celui où le fluide est décrit comme un milieu continu. Alors, est-ce le cas? On ne sait pas. C'est en général pas le cas, mais il peut y avoir des points exceptionnels où les choses vont très mal. Et les mathématiciens, pour l'instant, ne peuvent pas l'exclure. Le mieux qu'ils ont réussi à démontrer, c'est que les points où les choses vont mal forment un ensemble qui n'est pas bien gros. Alors, notre espace a trois dimensions, plus le temps, ça fait une quatrième. Et ce qui a été démontré, c'est que les points où les choses vont mal, ça forme un ensemble dont la dimension n'est pas supérieure à 1. 1 comparé à 4, vous voyez. Ce sont des choses très, très rares. Et ça, il est vraisemblable que cet ensemble est vide, mais on ne sait pas le montrer. Alors ça m'amène précisément à ce qui est le grand défi mathématique qui fait l'objet d'un des 7 prix d'un montant d'un million de dollars annoncé récemment par la Fondation Clay. Ça a été annoncé très solennellement il y a quelques semaines au Collège de France. Alors le problème, il est de montrer que les équations de la mécanique des fluides, ces fameuses équations de Navier-Stokes, conduisent à un problème bien posé. Alors ça veut dire que si l'on connaît les mouvements du fluide à un instant initial, on veut pouvoir montrer qu'il y a une seule solution, une solution unique, comme on dit, pour tout temps ultérieur. Remarquez, la question n'est pas cette fois-ci celle des erreurs. On suppose qu'on connaît parfaitement. Et on veut savoir si la solution existe. Eh bien, on ne sait pas le montrer. Alors, dans les années 30, le mathématicien Jean Leray, qui nous a quittés l'année dernière, avait réussi à démontrer que le problème est bien posé en dimension d'espace 2. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour les applications météorologiques et océanographiques, mais pour le type de turbulence que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont des turbulences tridimensionnelles, le problème est ouvert. Lui-même, il n'était pas arrivé, et ce sont des excursions au-delà de ces travaux qui ont permis d'obtenir le résultat que je vous citais tout à l'heure sur le fait que les points où les choses ne vont pas bien, ben, c'est au mieux un ensemble de dimensions. Hein. Mais il est peut-être vide cet ensemble, c'est-à-dire que peut-être que les choses vont tout à fait bien. Alors on peut regarder ce problème, on peut essayer de vulgariser un petit peu le noyau dur mathématique du problème sans écrire des équations. Tout d'abord, il faut comprendre que les choses sont très différentes suivant que le nombre de Reynolds est petit ou grand, c'est-à-dire suivant que la viscosité est forte ou faible. Si on est dans un écoulement laminaire à bas nombre de Reynolds, il y a une énorme viscosité, il y a un frottement gigantesque entre les différentes couches fluides, les différents tourbillons, les grands comme les petits, ils sentent ce frottement, et ce frottement, vous allez imaginer, il rabote tout et il empêche complètement qu'il se produise des catastrophes. Et on sait démontrer, c'est pas très difficile d'ailleurs, on sait démontrer que tout se passe bien. Alors la situation est tout à fait différente à très grand nombre de Reynolds, c'est-à-dire dans les écoulements en soufflerie, les écoulements géophysiques, astrophysiques, etc. Parce que là, tout se passe comme si la viscosité était très très petite, ou plus précisément, n'influe que les mouvements de toute petite taille. Si on regarde des tourbillons qui sont un peu plus gros, on peut complètement ignorer la viscosité. Et le problème est très proche de celui du fluide parfait. Le fluide parfait, c'est le fluide de Euler, fluide sans viscosité. Alors, qu'est-ce qu'on sait dire sur le fluide parfait ? Est-ce que le problème est bien posé ? En dimension 2, on sait le démontrer. Et en dimension 3, on sait seulement que le problème est bien posé pendant un temps fini. Quand on regarde les travaux mathématiques sur le fluide parfait, une fois que la poussière est retombée, qu'on traduit ça en langage élémentaire, tout se passe un petit peu comme si on avait la situation suivante. Imaginez un mobile dont l'accélération serait proportionnelle au carré de la vitesse. C'est ça que les mathématiciens, pour l'instant, arrivent à faire pour le fluide parfait. Eh bien, un tel mobile, c'est très facile de montrer que sa vitesse va devenir infinie au bout d'un temps très court. Elle suit une trajectoire hyperbolique comme ça, elle devient infinie. Essayez d'imaginer avec votre voiture que vous accélérez d'autant plus que la vitesse est plus élevée, ça va faire des gros dégâts. Donc, pour le fluide parfait, il n'est pas exclu que les choses se passent comme ça. Mais on ne sait pas le démontrer. Et les simulations à l'ordinateur suggéreraient plutôt que les choses sont plus douces. Ça, c'est ce que le mathématicien arrive à démontrer comme une limite supérieure, c'est-à-dire que les choses ne vont pas plus mal que ça. Mais ça, c'est très mal, ça. Et quand on regarde, c'est pas facile de faire des expériences de laboratoire, mais on peut faire des simulations à l'ordinateur pour un fluide parfait. Il semble que les choses augmentent, mais pas aussi brutalement que ça. Il est possible, en fait, que ça n'explose jamais. Mais là, plus on ne sait pas le démontrer. Et puis, là, je vous parle du fluide parfait, mais en réalité, le fluide est visqueux. Et le frottement entre les différentes couches du fluide à petite échelle, c'est tout à fait possible qu'il soit suffisant pour empêcher ce type de singularité. Et on pense en général maintenant que le problème de Navier-Stokes, même à des nombres de Reynolds très élevés, est un problème bien posé, mais on ne sait pas le démontrer. Et c'est un des grands problèmes ouverts des mathématiques, le problème de l'air et le problème de Navier-Stokes. Et, je suis très heureux que le comité de mathématiciens qui a été créé par la Fondation Clay est jugé utile de mettre ce problème, parce que lui, il est toujours ouvert, hein, contrairement au problème de Fermat. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots en guise de conclusion. La turbulence, c'est un sujet qui a un statut très particulier dans la physique contemporaine. Parce qu'il faut tout de même voir, c'est tout de même avant tout de la physique, même si les mathématiciens s'y intéressent de près. Alors, la turbulence est considérée comme un des grands problèmes ouverts de la physique. Mais contrairement aux grands problèmes frontières qui, en général, touchent à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand, la turbulence, c'est déjà quelque chose qui se manifeste à notre échelle, à nous. Et la physique de base dont on a besoin pour pouvoir écrire les équations, c'est de la physique qui est connue depuis très longtemps. C'est de la physique dite classique, celle qui est enseignée au lycée. Il n'est pas nécessaire de faire intervenir les frontières de la physique moderne, comme la mécanique quantique, la relativité restreinte ou la relativité générale, pour pouvoir formuler le problème. Et pourtant, c'est un problème ouvert. Mais attention, les outils mathématiques qui ont été développés pour ces fameuses physiques frontières, nous en sommes très friands en turbulence. Et pour prendre un exemple, je veux finir sur une note mathématique. La relativité générale, une des grandes percées d'Einstein, ça a été de montrer que d'une certaine façon, la matière va toujours d'un point à un autre en suivant le chemin le plus court. Alors c'est vrai, évidemment, si je lance un truc, là, il va en ligne droite. Mais en présence de pesanteur, comme vous le savez, la trajectoire a l'air d'être incurvée. En réalité, elle suit le chemin le plus court dans un espace courbe, comme l'a montré Einstein. On appelle ça des géodésiques. Sur une sphère, la trajectoire la plus courte d'un point à un autre, c'est un grand arc de cercle. Sur des surfaces plus compliquées, ce sont des courbes plus compliquées. Et en relativité générale, on a des géodésiques dans l'espace à quatre dimensions. Eh bien, il a été montré par Laplace, il y a déjà bien des siècles. Excusez-moi, c'est Lagrange, là. Oui. Il a été montré par Lagrange que, c'était à la même époque, le fluide parfait, lui aussi, il suit le chemin le plus court d'un point à un autre, mais dans un espace de dimension infinie. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué qu'à la relativité générale, alors que ça utilise de la physique classique. C'est assez paradoxal. Et on pourrait citer bien d'autres exemples comme ça, où on prend des outils développés pour la physique des très hautes énergies, appliqués à la turbulence, problème tout à fait classique, qui est très grand consommateur de tout ça. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant. Et je vous remercie.
C'est une question concernant les équations de Navier-Stokes. Alors, c'est pour savoir, est-ce qu'on pourrait d'abord rapprocher la turbulence avec la théorie des catastrophes en mathématiques? Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les équations d'évaluation partielle de la mécanique des fluides de Navier-Stokes par des équations différentielles stochastiques et après passer aux expériences mathématiques?
Merci. Oui, de façon générale, je vais... face à des questions qui sont un peu trop techniques, je vous demanderai de venir les discuter avec moi à la fin, mais je peux tout de même commenter sur la première partie de votre question. La théorie des catastrophes, en fait la théorie des singularités, elle s'appelle aussi comme ça, est utilisée constamment en turbulence, en particulier pour la transition. Pour comprendre les phénomènes de transition, on utilise une discipline qui s'appelle la théorie des bifurcations, qui elle-même est grande consommatrice de tous ces travaux. Et c'est le cas d'ailleurs dans à peu près tous les domaines du non-linéaire, dont l'équation de Navier-Stokes n'est qu'un exemple.
Une question, monsieur, là.
Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'on peut parler de turbulence humaine? Et dans ce cas-là, il y aurait un truc bizarroïde parce que si on peut parler de turbulence humaine, il y aurait un peuplement multiplié par 3 sur la Terre. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez compris.
Je crois que la question non.
Au niveau de l'humanité, si on peut parler de turbulence humaine, est-ce que on peut ou pas?
Je réponds à ça. Des turbulences humaines, il y en a beaucoup. D'abord, il y a l'origine du mot. Hein, c'est que turbulence, c'est les mouvements désordonnés de la foule. Mais les turbulences des marchés boursiers sont typiquement des turbulences humaines. Et c'est très intéressant de voir que si l'on étudie la variation des cours des marchés boursiers, ça ressemble beaucoup au type de turbulence dont je vous ai parlé. Il y a même des analogies qui sont tellement profondes qu'on ne comprend pas. On se dit qu'il y a des structures communes aux deux qu'on n'est pas encore arrivé à trouver.
Une question, monsieur, allez-y. Oui.
Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure qu'un des premiers qui a parlé de la turbulence, du moins la définition moderne de la turbulence, c'est Léonard de Vinci, c'est ça, je crois. Oui. Vous avez cité aussi, il s'appelle le poète Jonathan Swift, mais on pourrait parler du poète Lucrèce.
Absolument.
Avec sa fameuse
oui.
Suave Mari Magno, Turbantibus Aecora Bentis, qu'il est doux depuis la terre ferme de voir les autres pris dans la tempête et les turbulences. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, j'en pense le plus grand bien. Parce que Lucrèce, même en laissant de côté les aspects poétiques, Lucrèce a été le premier à comprendre l'universalité du phénomène. Il a compris que ce sont les mêmes lois qui régissent les tourbillons dans l'air et dans l'eau, ce qui n'est pas du tout évident si vous vous replacez dans la perspective des Romains. Ces études sur les phénomènes de mécanique des fluides sont extrêmement intéressantes. C'est pour ça qu'il m'arrive fréquemment de remonter à Lucrèce lorsque je donne une conférence à caractère plus historique.
Monsieur, allez-y.
Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir quel est l'écart type constaté entre les équations, enfin les modèles d'équations actuels et la réalité terrain. Et deuxième question, deuxième volet, comment vous expliquez l'écart qu'on a pu constater au niveau de la tempête de décembre, au niveau des vitesses prédites par la météo qui était de l'ordre de 130 km/h et la réalité terrain qui tournait à 180 voire 200 km/h sur des zones comme La Rochelle.
Bon, tout d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que les modèles de météo ont justement beaucoup progressé ces dernières années et que la prédiction de la tempête, la qualité de la prédiction sur cette tempête était très supérieure à ce qu'il y a pu y avoir sur des phénomènes analogues dans le passé. Je crois qu'il s'agissait d'un événement extrême pour lequel on peut prédire qu'il est extrême, mais alors savoir exactement à quel point il va être extrême, c'est très difficile. Moi, je m'intéresse beaucoup aux problèmes extrêmes. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, sinon peut-être à propos des fameuses ruptures, qui sont des événements très, très rares. Quand on manque de statistiques, c'est-à-dire quand les phénomènes sont très rares, il n'est pas possible d'appréhender le phénomène de façon empirique. Il faut avoir une connaissance fondamentale. Et tant qu'il y a des problèmes ouverts, fondamentaux, on ne peut pas vraiment faire une bonne théorie. Et on n'a pas assez d'événements non plus. Donc, ça plaide, je dirais, pour plus de recherches fondamentales.
Monsieur ?
Oui, je voulais simplement vous demander si vous pourriez préciser ce que vous entendez par un problème bien posé, parce que vous en avez parlé souvent.
Alors, un problème bien posé, c'est un problème qui, à partir d'une condition initiale, une seule solution et une solution qui se comporte bien. Je vais vous donner un exemple de problème mal posé. C'est souvent là. Excusez-moi, je vais être un tout petit peu technique. Si vous avez un mobile dont la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la distance qu'il a parcourue, et que vous le mettez initialement à l'origine, ce mobile, il est facile de montrer qu'il n'y a pas une solution, mais qu'il y en a deux. Il peut rester là où il était, ou il peut s'éloigner avec une loi dépendant du temps, et ça, c'est typiquement un problème mal posé. C'est d'ailleurs un problème mal posé qui est très intéressant en turbulence, parce que les variations de vitesse étant comme les racines cubiques des distances, il y a certains aspects de ce qui arrive aux particules que l'on met dans l'écoulement, qui sont affectées par des problèmes comme ça de non-unicité. Et cette non-unicité est même favorable à la séparation des particules. C'était la dispersion des polluants qui a été étudiée par Richardson, est accélérée par un problème par un phénomène de non-unicité qui est cette fois-ci utile.
Madame.
Bonjour monsieur, vous avez dit, je crois, tout à l'heure, que le coefficient de viscosité de l'air était de 0,1 et celui de l'eau de 0,01 cm centimètre par...
Oui,
ah, il y a. Centimètre par... centimètre carré par...
L'ordre de grandeur, oui.
Mais, enfin, en tant que non-spécialiste, j'aurais tendance à comprendre le contraire. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi, puisque...
Oui, 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 c'est une très bonne question. En fait, ça m'amène à faire une petite distinction entre deux coefficients, l'un qu'on appelle la viscosité et l'autre qu'on appelle la viscosité cinématique. Dans la formule de Reynolds, ce qui figure en dénominateur, c'est la viscosité cinématique. Et la viscosité cinématique, c'est la viscosité divisée par la densité. Et l'eau est plus lourde que l'air. C'est tout.
Oui, je voulais vous demander à propos de la superfluidité, est-ce qu'il y a d'autres... Je crois que l'hélium peut être à très basse température superfluide. Est-ce qu'il peut avoir d'autres matières ou alors à des températures plus proches des nôtres?
Oui, alors tout d'abord, il faut bien distinguer les expériences de soufflerie sur table auxquelles je faisais allusion ne sont pas faites avec de l'hélium superfluide. C'est fait avec de l'hélium normal, c'est-à-dire au-dessus de la température où l'hélium devient superfluide. La turbulence superfluide, c'est aussi un phénomène très intéressant, dont on a d'ailleurs montré ces dernières années qu'il ressemble plus à de la turbulence ordinaire que ce qu'on pensait, mais donc hélium ordinaire. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, il y a d'autres fluides à basse viscosité, pas aussi basse que l'hélium, mais qui sont très intéressants à utiliser. Par exemple, il y a le mercure. Alors, le mercure est très peu visqueux parce qu'il est lourd, pour la même raison, je disais tout à l'heure. Et seulement, c'est dangereux d'utiliser du mercure en raison des vapeurs de mercure. Mais enfin, en prenant les précautions convenables, c'est assez intéressant.
Vous avez parlé d'équations déterministes et d'erreurs qui s'amplifient de manière exponentielle.
Ici.
Ah. Et d'erreurs qui s'amplifient de manière exponentielle. En biologie, on a des modèles mathématiques qui sont les courbes de Monte Carlo et qui amènent à des résultats très complexes et éventuellement à des intoxications et avec des turbulences humaines. Effectivement, je pense à des listeria, je pense à d'autres maladies. Est-ce que vous utilisez ces courbes de Monte Carlo ?
Je n'ai pas compris la fin de la question. Est-ce que
vous utilisez les courbes de Monte Carlo, l'équation de Monte Carlo ?
Alors, la modélisation de Monte Carlo... Non seulement on l'utilise, mais d'une façon générale, on peut dire qu'elle est née dans ce sujet. L'étude du mouvement brownien, c'est le mouvement moléculaire, et l'étude mathématique par des gens comme Norbert Wiener a été très largement inspirée des travaux de G.I. Taylor sur la turbulence. Les percées sur des problèmes comme ceux qui sont encore projetés là, sur les scalaires passifs, ça a consisté à développer de la théorie qui a été validée ensuite par des simulations numériques qui sont des simulations Monte Carlo. Donc ça, c'est notre pain quotidien, le Monte Carlo.
Une dernière question.
D'ailleurs, monsieur... l'observatoire de Nice est très proche de Monte Carlo.
Une dernière question, monsieur.
Vous avez parlé d'imprédictibilité. Alors, je voulais que vous précisiez, du point de vue philosophique, en mathématiques, le nombre, quand il y a imprédictibilité, ça veut dire que le nombre de paramètres agissant est inconnu. Enfin, on ne connaît pas tous les paramètres, ou bien on ne connaît pas toutes les lois qui agissent sur ces paramètres, ce qui aboutit à une absence de déterminisme.
Non, l'imprédictibilité dont je parle n'est ni d'un type ni de l'autre. Les équations sont parfaitement connues. Le mot paramètre peut être ambigu. S'il s'agit des paramètres de contrôle, comme le nombre de Reynolds, il est bien connu. S'il s'agit des données initiales, qu'on n'appelle en général pas les paramètres chez nous, elles sont parfaitement connues. Et pourtant, la moindre erreur sur les conditions initiales va s'amplifier exponentiellement et on ne pourra pas prédire pour un temps long. C'est uniquement ça.
Muriel Frisch, je vous remercie.